France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Aujourd'hui, bon anniversaire d'Ève, première partie. Bonjour Dave.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir sur France Musique parce qu'il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Vous allez célébrer vos 80 ans, on peut le dire.
Il faut le dire.
Au Grand Rex le 21 mai prochain.
Et au 31 décembre dans un théâtre à Bruxelles, parce que là il y a aussi des francophones qu'on appelle des vallons.
Absolument. Et puis par ailleurs, vous avez publié... J'ai envie de dire, un quatrième livre de mémoire.
J'ai une langue très longue vie, 4 fois 20 ans, 4 mémoires.
Chez Talent Édition, à l'automne dernier, qui s'appelle « Dave, comment ne pas être amoureux de vous ?»
Oui, ce n'est pas un titre que j'aurais choisi, je trouve ça légèrement pedant, mais...
C'est le titre d'une chanson aussi.
C'est le titre d'une chanson, donc c'est une excuse.
Je vous l'avoue, comment ne pas être amoureux de vous. Voilà fou, comment ne pas être amoureux de vous? Vous êtes là.
Cette chanson, enregistrée par Dave en 1978, est une adaptation signée Patrick Loiseau du succès d'Elvis Presley de 61, Can't Help Falling in Love, lui-même inspiré du célèbre Plaisir d'amour de Florian et Martini.
Malgré moi, je me sens.
J'aimerais peut-être qu'on puisse parler de vos débuts également, d'où vous venez. Donc on le sait, vous êtes hollandais, vous êtes né à Amsterdam. Mais j'aimerais que vous nous décriviez en quelques mots votre famille, pour commencer.
Ben, je suis né le 4 mai 44, donc ça fait bientôt que j'aurai mes 80 ans. Mon père était d'origine juive tout en étant protestant. Il avait décidé de changer de religion, toujours en gardant le même Dieu. Et ça fait donc, évidemment, au moment de ma naissance, et même au moment où ma mère est enceinte, mon père est évidemment caché, parce que même si au début, on l'a laissé tranquille, que les nazis, les Allemands l'ont laissé tranquille, parce que sa femme n'était pas juive, et il est obligé de se cacher, parce que ça devenait de plus en plus sévère. Mais genre, je m'en souviens évidemment pas. C'est juste que ma mère, au début, a été obligée de me nourrir avec des oignons de tulipe, donc j'ai bu le lait, donc c'est pour ça que je ressemble à une fleur. Et puis, après, parce que mon frère aîné, Martin, c'est un très joli prénom. Mon frère aîné était asthmatique quand il était jeune et on habitait à Amsterdam, dans le quartier sud d'Amsterdam, qui est un peu le 16e comme à Paris. C'est-à-dire que c'est là où il y avait des gens légèrement fortunés. Mon père n'était pas encore prof, mais il est devenu prof, donc il n'était vraiment pas riche. Mais pour lui, pour mon frère aîné, on a déménagé dans un endroit à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, qui est un peu comme si on allait, quand on habite à Paris, à Garches, par exemple, très, très arboré, très agréable à vivre. Et je me souviens évidemment mieux de cette période-là, qui était une famille, deux frères, une sœur, des parents, une vie familiale d'avant-télé, donc extrêmement sympathique. Je joue même au Scrabble quand ça a été invité ensemble. Mon père était très bridge, mais il jouait quand même au Scrabble avec nous aussi. Et sinon, il partait le matin au lycée où il était prof, et je partais après avec lui parce que j'étais élève au lycée dont il était prof. Il était prof d'anglais. Et sinon, le dimanche, c'était le bon repas. Et mon père avait vécu une partie de sa vie en Allemagne avant qu'il y avait Hitler, après du côté de Montpellier. Donc il était branché, vraiment branché, bon vin français, que très vite j'ai apprécié. Et aussi la bonne cuisine que très vite que j'ai apprécié aussi. Je suis vraiment pour ça un épicurien à 100% et fier de l'être.
Si le monde est à l'envers, s'il ne tourne pas très rond, s'il y a d'autres choses à faire que de chanter des chansons, moi je veux aimer la vie jusqu'à l'instant où tout sera fini. Il n'y a pas de honte à être heureux, l'univers je peux le refaire, rien qu'en te regardant au fond des yeux, c'est merveilleux. Et même si le monde est malheureux, c'est ton amour qui est ma lumière. Il me suffit de regarder tes yeux, c'est merveilleux.
Donc père professeur d'anglais.
Mère danseuse.
Et mère danseuse, voilà, ouais. je voulais y venir. Donc ouais, vous avez ouais, déjà moi... quand même un atavisme artistique.
Oui, encore que ma mère, avec beaucoup de gentillesse, a dit que je chantais aussi bien que je dansais mal. C'était un vrai compliment de sa part, parce que je pense... Je suis allé prendre un peu de cours de danse, parce qu'elle donnait après, évidemment, elle n'était plus danseuse, mais prof de danse, et m'a très vite viré, parce que ce n'était pas mon truc. Moi, j'étais plus branché foot avec mes copains, donc je jouais au foot les après-midi, de mercredi, samedi, même le dimanche. J'ai toujours apprécié le ballet, pour, visuellement, évidemment, mais je ne sais pas, vraiment pas le faire. Non, non, non. Je bouge pas mal sur scène, enfin, je bouge beaucoup. Je ne bouge pas bien, mais je bouge beaucoup. J'adore donner de l'énergie quand même.
Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une voix particulière ?
Oh, je pense comme la plupart des chanteurs, c'est dans la famille qu'on se rend compte que le petit chante bien, peut-être un peu le prof de chant à l'école primaire aussi, qui me faisait souvent faire des solides, parce qu'elle aussi s'est rendue compte que j'avais un petit peu de voix. Après, mes parents, qui étaient des parents aussi attentionnés qu'attentifs, m'ont envoyé prendre des cours de chant. Ça, c'était plutôt du lyrique. J'y ai cru quand même, parce que je voyais bien que les notes sortaient, quoi. Et j'ai pris après les cours à Paris, bien plus tard, donc j'ai pris les cours de chant d'une cantatrice française qui a un certain renom, qui s'appelle Renée Doria, et qui m'a dit que j'aurais pu et que je pourrais devenir ténor. Je suis ténor, mais je préférais devenir chanteur de variété.
Quand vient la mélancolie, les jours se suivent et se ressemblent trop. De velours gris, la moindre pluie vous fait froid dans le dos. Le soleil s'éloigne de la terre. Il y a des idées noires dans l'air. Heureusement que la musique est là, quand le cœur n'y est pas, quand le bonheur nous fuit et qu'il nous file entre les doigts. Nos pleurs, perdu la bonne adresse où j'allais autrefois pour oublier. Les chemins de la sagesse ne sont pas faciles à retrouver. On fait quelques pas et l'on s'égare dans les rues mouillées de la mémoire. Heureusement que la musique est là quand le cœur n'y est pas, quand le bonheur nous fuit et qu'il nous file entre les doigts. Elle arrondit les angles de la vie, elle adoucit nos pleurs quand les temps sont durs et qu'on attend des jours meilleurs. Heureusement que la musique est là quand le cœur n'y est pas, quand le bonheur nous fuit et qu'il nous file entre les doigts. Elle arrondit les angles de la vie, elle adoucit nos pleurs quand les temps sont durs et qu'on attend des jours meilleurs. Heureusement que
précisément, la chanson, elle a nourri aussi votre enfance, parce que votre père adorait la chanson française, notamment.
Ah oui, j'ai vraiment grandi avec, je dirais presque, avec Boris Vian, avec Mouloudji, avec Brassens, avec Brel, ou Aznavour et Beko. C'était évidemment la musique des années 50, dont je me souviens, au début de ma vie, parce que dans les années 50, c'était jeune. Et j'étais quand même, moi, plus branché, comme la plupart des jeunes Hollandais, de musique de pop anglais, de Everly Brothers, qui sont américains, ou des chanteurs anglais et américains. Mon idole, encore aujourd'hui, sur mon exemple, dirais-je, c'était Roy Orbison, qui est pas très connu en France. On connaît qu'une chanson qui s'appelle Pretty Woman, mais il en a fait plein. Et il a été beaucoup chanté en français, notamment par Richard Anthony, qui a fait beaucoup d'adaptations de son vivant. Mais évidemment, Elvis Presley aussi. Toute cette époque des années 60, où moi, dans mon lit, avant de me coucher, j'écoutais, pas tout à fait à cachette, mais presque, la radio anglaise, le hit parade tous les dimanches soirs, c'est hit parade anglaise. Donc, je connaissais bien ce qui se passait. Et j'ai jamais été un grand amateur de la chanson hollandaise, parce que c'est très guttural, c'est pas facile. Je n'ai pas une chanson préférée en hollandais. En anglais, j'en ai plein, ça c'est sûr.
En anglais, ce serait quoi, par exemple?
Évidemment, après, quand les Beatles sont arrivés, je ne pouvais pas ne pas croquer pour une chanson comme Yesterday, qui est un chef-d'œuvre, mais il y en a plein dans les Beatles, évidemment. Il y a un autre chanteur qu'on connaît à travers qu'une chanson qui était le premier succès de Herbert Léonard, qui s'appelle « Quelque chose à moitié mon cœur ». C'est une chanson de Gene Pitney, que les Français ne connaissent absolument pas, et qui est un peu mon exemple aussi vocal. Une voix ténor, mais évidemment dans le pop, hein, mais très 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 bonne voix aussi. Et donc j'aimais beaucoup ces chansons, mais ça pourrait être aussi Mahalia Jackson, qui était des Negro Spiritual, que mon frère aîné Martin me faisait écouter. C'était assez éclectique et ça l'est toujours.
Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was more, I once lived in a time so bright, changing the way, changing.
Dave, vous avez appris à jouer des instruments très tôt, finalement.
Oui,
c'est la guitare, le piano, à 14 ans, c'est ça?
Pas le piano, la guitare. Ouais, ouais, ouais. Je me débrouille, je mets mes doigts un peu comme si je faisais un accord sur une guitare, mais je suis pas pianiste du tout. Je suis pas un vrai guitariste non plus, mais j'ai quand même pendant longtemps pris des cours de guitare et ça m'a aidé pour écrire mes chansons. Au début, je sentais que mes chansons. Donc, j'ai eu la chance, en 1963, j'étais encore au lycée, de faire un premier disque.
Ah, ça, on va en parler de ce premier disque.
Oui, avec un monsieur qui était connu pour découvrir des gens. Notamment un groupe hollandais qui s'appelle The Blue Diamonds qui ont chanté Ramona, qu'on avait comme événement aussi en France, et avec lequel il a vendu plus de 1 million de disques en Allemagne, ce qui est rare pour un chanteur hollandais. Mais c'est vrai que c'était des embonnés, c'était nos archis un peu à nous, parce que l'Ambon est une île en Indonésie qui s'était battue à côté des colonisateurs qui étaient les Hollandais, donc ils étaient obligés de fuir après, il y en a encore pas mal aux Pays-Bas. Et donc, à cette époque, j'avais envie d'être ambonais pour être différent des autres. J'ai toujours bien aimé être différent des autres et je suis arrivé par d'autres manières.
Alors donc, ce fameux disque enregistré en 63...
Girl of my dreams, I love you.
Vous savez que...
Faut trouver,
il est très rare, mais je l'ai retrouvé.
Vous l'avez trouvé? Ah bon, d'accord.
Alors on va l'écouter.
Je vous l'achète. Just hold your charms again in my arms. The life will be complete. Since you've been gone, dear, life don't seem the same. There's only one girl of my dreams, it's you.
Le 45 tours de Dave Witch, reprenant un succès américain de 1927, Girl of My Dreams, est sorti uniquement aux Pays-Bas en 1964.
Musique, tour de chant, Martin Penet.
Quel effet ça vous fait d'entendre ce tout premier enregistrement en anglais? Vous aviez 19 ans, Dave?
Ouais, c'est-à-dire que je me rends compte à quel point j'étais en effet fan d'Elvis d'une part et de Roy Orbison de l'autre, parce que je chante un peu de cette manière-là, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment choisi sa voix. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, ne serait-ce que pour draguer des filles, à l'époque, une chanteuse qui a de la voix, ça impressionne. Je ne dis pas qu'un chanteur je veux dire, Brassens a sûrement impressionné aussi des filles, c'est pas non plus une teneur lyrique, hein, mais il y a de tout dans les chansons. Mais moi, j'ai toujours bien aimé sortir ma voix. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que personne ne me le demandait. Hein. Et encore maintenant, ça peut parfois gêner mon compagnon, parce que si je suis légèrement imbibé, allègre, comme on dit en italien, quand j'ai bu un verre de trop, je peux me mettre à chanter un air d'opéra dans un restaurant et personne ne s'y attend. Évidemment.
J'aimerais voir ça, Dave.
Oh, non, je ne veux pas le faire.
Ah, vous pouvez.
Vraiment?
Non, ah oui, vous pouvez sur France Musique, on peut tout se permettre.
Si amanti vieta di non amar l'amanto lieve chi mi respinge cerca la stretta della mia man la tua pupille sfima. C'est un contre-là, il est trop tôt. Normalement, il faut attendre au moins 21 heures pour chanter un contre-là. Mais bon, si vous êtes restés, chers auditeurs et auditrices de France Musique, bravo.
Merci pour ce petit cadeau improvisé.
Oui. Oh, ça vaut au moins 20 francs. Ah non, il n'y a plus de francs. Oh.
Alors, pour revenir à ce premier disque enregistré en 63, comment ça s'est fait?
En fait, je crois que c'est mon frère aîné, Martin, qui a fait des démarches auprès de Phonogramme, qui était donc une partie de Philips, donc qui était une maison de, enfin, pas seulement de disques, de télé, de radio,
etc. Parce que le 45 tours, il est sorti chez Decca. Hein.
Decca qui appartenait à Philips.
D'accord.
Et le plus grand propriétaire de Philips, c'était la reine Juliana.
Ah.
Oui, ça appartenait même à la famille d'Orange, mais qui ne sont pas vraiment d'Orange, mais c'est qu'appelle Orange Nassau. Mais c'est vrai que j'avais à cette époque-là un groupe, comme j'étais en lycée classique, un gymnasium, donc on dit aux Pays-Bas, j'avais traduit mon nom en latin et j'avais choisi le prénom David à cause de la Bible. Et j'ai trouvé ça mignon parce que David, dans la Bible, que j'ai donc bien lu parce que je voulais devenir pasteur, il chantait pour le roi Saul en s'accompagnant à l'harpe, évidemment, parce que le roi Saul était malade. Et j'ai dit, mais c'est un joli nom pour un chanteur, donc je me suis décidé de m'appeler David et j'avais traduit mon nom Levenbach en latin. Bach veut dire ruisseau en allemand. Leven veut dire vie, quand c'est pas Lévi. Donc, je m'appelle David Rivus-Vitae. Et ils ont ri très fort sur Phonogramme quand j'ai dit que c'était mon nom d'artiste. Parce qu'évidemment, David Rivus-Vitae, personne ne va l'acheter. Et j'ai donc reçu une lettre de la maison de disques dans laquelle il y avait marqué, vous allez vous appeler Dave Rich. Donc, ils ont gardé David, appelé Dave Rich, parce que Rivus, et c'est Eddie Barclay, donc, bien plus tard, qui m'a dit, on va garder Dave, mais pas Rich, parce que pas tout de suite. Et puis, il avait pas tort. Et donc, grâce à mon frère Martin, j'ai fait une audition, ils m'ont gardé, et j'ai fait ce premier disque, Girl of My Dreams, qui n'a absolument pas marché, mais c'est vrai que les premières fois que je me suis entendu à la radio, je pense que j'ai failli rentrer dans un mur avec mon vélo hollandais.
Quand on a quelque chose en soi, qui ressemble à un cœur, on apprend à vivre avec ça et tout devient meilleur. Quelquefois ça porte malheur, on le brise parfois, mais je porte en moi le bonheur et mon cœur est à toi.
D'ailleurs, cette aventure a été sans lendemain jusqu'à l'engagement chez Barclay bien plus tard.
Oui, en fait, parce que moi, je suis parti. J'étais donc entre-temps devenu étudiant à Amsterdam, mais je sentais que ce n'était pas mon avenir et je suis parti. Et c'est là où je commençais à vivre en chantant. J'avais rencontré donc une personne qui était très branchée bateau. Donc, on a mis nos sous ensemble que j'ai gagnés sur les bateaux mouches d'Amsterdam comme guide. Et ça nous a permis d'acheter un vieux rafio de 1920, qui était déjà à 65 quand même, plutôt âgé. Mais sinon, on n'aurait pas pu l'acheter parce qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et on est parti avec. Comme c'est un bateau à fond plat, ça nous a permis de partir vers la Méditerranée par les voies fluviales. Parce qu'il y avait un tirant d'eau qui le permettait. Un tirant d'eau, chers auditeurs, c'est la profondeur du bateau dans l'eau. Et les péniches font parfois environ 2 mètres, donc avec un bateau qui fait 1,35 m de tirant d'eau, on pouvait passer par la France. Et c'est comme ça que je suis d'ailleurs resté un peu coincé en France, parce que ça ne va pas vite sur les canaux. La vitesse maximum est de 5 km à l'heure.
Et alors, à quoi ça correspondait ce besoin de quitter Amsterdam, d'aller vers le sud?
Parce que j'ai lisé beaucoup de livres dans lesquels ça voyageait, quoi. C'était l'époque des beatniks, hein, donc on était en plein dans le voyage, on était plein dans des gens qui partaient à Katmandou, mais pour faire la manche à Katmandou, je ne suis pas sûr que ça a marché. Et donc, c'était parce que je n'ai peut-être pas tout à fait dans un total bonheur, sentant que j'ai raté, que je n'arrivais pas à me lever pour aller à la fac des droits où j'étais inscrit, que je me couchais de plus en plus tard parce que je sortais, j'étais donc sur une petite chambrette, un studio à Amsterdam, et je me couchais plutôt très tard, pour ne pas dire très tôt. Et j'ai découvert ma différence, c'est-à-dire que j'étais tombé plus amoureux de camarades du sexe masculin que féminin. Donc ça donnait une forme de différence avec les autres, que je vivais peut-être plus ou moins bien. Et donc j'ai décidé de voyager, quoi. Et puis après, mai 65 est arrivé, qui est un peu mai 68. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de révolution dans les rues d'Amsterdam, et pas que d'Amsterdam, mais un peu partout aux Pays-Bas. Il y avait une espèce de beaucoup de manifs d'étudiants, tout ça. Moi, j'étais donc inscrit à la fac des droits, donc on me disait « viens manifester ». Et moi, je me dis « non, je ne vais pas venir ça, je vais m'en aller, je vais partir ». J'ai fui donc les participations des studentines de l'époque. Quoi.
Je vois un village avec des maisons toutes les couleurs, et dedans deux images qui se regardent avec tant de douceur. Je vois qu'ils se tiennent la main, je vois qu'ils s'aiment si bien. Je vois des bateaux sur la mer de toutes les couleurs, et des matelots qui n'ont pas compris leur bonheur. Je nous vois, on se tient la main. On s'aime si bien, et puis je me réveille, je marche dans une ville, tous les matins c'est pareil, moi et mes chansons.
Donc, Dave, vous partez sur les canaux, vous partez vers la France, à travers la Belgique d'abord. Finalement, vous passez par beaucoup de villes, et votre moyen de subsistance à cette époque?
Alors, on s'est donc rendu compte, grâce à ce copain qui s'appelle Joost, qui est un prénom bien hollandais, qu'on peut en effet, ce qui s'appelle en français vulgairement la Manche. Et donc, nous avons commencé à faire la Manche. On a commencé en fait vraiment à Namur pour la première fois. Et lui chantait plutôt des ballades, des blues, comme ça. Et moi, je chantais plutôt les dernières chansons que j'avais entendues à la radio. Donc, à l'époque, c'était la chanson qui a gagné l'Eurovision, par exemple. Une chanson de Sandy Shaw, Puppet on a String, ça s'appelait. Beaucoup de Beatles, Yesterday, Michel, etc. Des chansons comme ça. Et je gagnais beaucoup plus d'argent que lui, parce que je n'ai pas fait exprès, mais j'avais un répertoire bien plus commercial, comme on dit, d'une manière péjorative.
Et Joost, qu'est-ce qu'il chantait, lui, alors?
Joost, il chantait plutôt des vrais blues, quoi. Il était très Ledbetter, qui était vraiment des chansons même pas très, très connues, quoi. C'était même pas un Big Bill Broomji ou des chanteurs de blues connus. C'était vraiment... il était très à part. Il avait son petit UR, qui était à l'époque un genre de petit Nagra, quoi, tout petit et beaucoup moins cher.
Un magnétophone, oui.
Un magnétophone, et il écoutait vraiment du vrai folk. Il n'y avait pas du tout un répertoire... On va dire France Inter, pour ne pas dire France Musique. Moi, oui.
I'm gone. Screaming and crying, thinking about my past life and gone. You know I used to have a sweet little mother. Well, boy, you know I had such a happy home. Screaming and crying, thinking about the time I've been.
Sur votre périple, vous vous êtes arrêté à Paris et ça a été une révélation pour vous.
C'est-à-dire qu'on s'est amarré, d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était marrant comme erreur, on s'est arrêté à côté du Tour Eiffel, donc sur la Seine, en croyant que ça y est, on est à Paris, on est au centre de Paris. Essayer d'acheter une baguette à côté du Tour Eiffel, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a remis le moteur à eau, ce qui était lourd, parce que c'était un monocylindre, pour ceux qui écoutent et connaissent quelque chose au bateau, un monocylindre, il faut déjà le mettre en route. Et la deuxième fois, toujours pas hasard, on s'est arrêté sous le Pont Neuf, où là, en effet, on était bien placé pour aller jusqu'au rue Saint-André-des-Arts, on a trouvé une crêperie, et quand je donne des conseils aux jeunes gens qui veulent faire de la Manche en chantant, je leur dis toujours de se choisir ou une crêperie ou une pizzeria, parce que ça change plus vite les clients. Et au restaurant normal, c'est que ça change que deux fois si tout va bien.
Et alors, au-delà de la crêperie de la rue des Arts, vous avez exploré un petit peu la rive gauche parce qu'elle était en pleine activité artistique à ce moment-là.
Oui, mais moi, je ne pouvais pas vraiment chanter. Je me souviens, chez Georges, c'était un truc vraiment... un café chantant, quoi. J'ai quand même bien plus tard chanté à l'Écluse parce que je connais des gens qui travaillaient, qui avaient le numéro de mime. Mais en fait, mon répertoire a toujours été trop... je trouve pas d'autre mot que commercial, même si ça sonne un peu péjoratif. Donc,
pas très esprit rive gauche.
Pas vraiment. Mmh. Encore que les chansons que j'écrive moi-même, mal.
Vous pensez à un titre en particulier de ces premières chansons que vous avez composées, alors inspirées par Yost ou pas?
Oui, il y a une chanson que j'avais un petit peu, j'étais déjà un petit peu voleur à l'époque, j'avais traduit en français une chanson, j'ai même oublié son nom, d'un poète qui a quand même été un petit peu connu, même plus qu'un petit peu pour ceux qui s'intéressent à la poésie. Et en français, j'habite dans une autre maison. J'habite dans une autre maison. On se revoit parfois. Je dors toujours sans toi. Mais nous sommes jamais ensemble. Un truc comme ça. C'était donc, c'était vrai. J'étais sincère. C'était maladroit.
J'habite dans une autre maison. On se revoit. Parfois, je couche toujours sans toi, et nous sommes toujours ensemble. Tu habites dans une autre maison. On se revoit parfois. Tu cours toujours sans moi. Et nous sommes toujours ensemble. Le jour ensemble.
Donc cette aventure parisienne avec Yos s'est prolongée ensuite vers le sud de la France, mais ça a duré qu'un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, c'était pour
mais
vous
c'était
difficile.
Mais c'était pas possible,
quoi.
Je pense que nos auditeurs et auditrices comprendront que si on dort dans 2 mètres carrés avec quelqu'un dont on est éperdument amoureux, et en plus attiré physiquement, et qu'il ne peut rien se passer parce qu'il n'a pas le même goût que vous, à un moment, on ne tient pas. Et ni lui ni moi d'ailleurs. On est resté amis jusqu'à la fin de nos jours, mais il n'y avait aucune entente moléculaire, pour ne pas dire sexuelle. Et d'ailleurs, une expression française que j'aime beaucoup, avoir des atomes crochus, parce que je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on a trouvé la personne avec laquelle on a des atomes crochus, on ne le quitte pas.
Donc vous êtes tout de même allé jusqu'à Marseille ensemble.
Ah ben, on est allé plus loin que Marseille, on est allé jusqu'à Saint-Tropez. On a même traversé avec le bateau, j'ai même fait la Manche à Saint-Florent, donc c'est en Corse. Et ça marchait partout très très bien. Parce que le mec qui chantait Yesterday, les dernières chansons qui avaient gagné l'Eurovision, il y avait une clientèle. Donc disons, pour comparer, si moi j'ai on va essayer de traduire en euros, si moi j'ai rentré tous les soirs avec 50, même parfois jusqu'à 100 euros, lui il rentrait avec 10 euros. Donc, là aussi, il y avait une différence, mais il n'était pas jaloux de moi, puis je ne lui en voulais pas. Hein. C'était surtout cette cabine qui était trop petite pour 2 personnes qui ne sont pas d'attirance physique l'un pour l'autre.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Alors précisément, Dave, vous avez eu la velléité de refaire des disques à partir de 1967. Donc là, les choses se précisent. Grâce à la rencontre d'Eddie Barclay.
En fait, quand j'étais à Saint-Tropez, il y avait beaucoup de gens du showbiz, comme on dit en vieux français. Et j'avais eu des propositions, on ne peut plus honnêtes, pour des gens qui avaient envie d'essayer de faire des disques avec moi. Et je suis allé voir, entre autres, Eddie Barclay, qui en effet m'a signé. Je connais les dates par cœur parce que c'est les jours de l'anniversaire de feu ma maman. 7 décembre 1967. D'ailleurs, quand j'ai signé avec Eddie Barclay, il m'a invité le même jour, donc le 7 décembre 1967, dans une soirée qu'il faisait dans son appartement à Paris, avenue Friedland. Et il y avait, ce soir-là, tout le métier. Donc moi, qui ne connaissais pas encore grand monde, mais il y avait notamment Alain Barrière, des gens comme ça. C'était une soirée, pour moi, assez surprenante. Et je me souviens surtout du directeur général, qui s'appelle Hubert Ballet, qui, au moment que je partais, parce que je rentrais 6 mois, plus qu'à l'heure, mais pas tôt, il m'a mis plein de cigares dans mes poches de mon veston, en disant, je ne sais pas si tu veux vendre des disques, prends déjà ces Havanes, c'est toujours ça de prix. Il avait bien raison. Merci Monsieur Ballet, mais je ne pense pas qu'il est encore de ce monde.
Ce contrat chez Barclay a quand même duré plusieurs années. Vous avez sorti votre premier 45 tours en 1968.
J'en avais 10.
Voilà.
Mais le premier, c'est 1968, ça s'appelle Si je chante, mais je l'ai sorti en mai 68. Ce n'était pas un très beau moment.
Mais donc on l'a entendu quand même un peu.
Grâce au programmateur de France Inter.
Si je chante en cet instant, c'est pour montrer que je sens l'amour pour toi. J'admire tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. C'est si vrai. Et je ne pleure plus jamais, parce que depuis je connais l'amour pour toi. L'amour pour toi, profondément.
Quand vous réentendez cette chanson aujourd'hui, Si je chante, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul?
Ben, c'était quand même un arrangement d'un arrangeur qui sont importants pour le disque. Ça, les auditeurs ça ne savent pas toujours. Il s'appelle Jean Bouchetti.
Jean Bouchetti?
Ouais. Il a fait beaucoup de fugains, etc. Il était très, très demandé. C'est un ancien bassiste de Piaf aussi, lui. Et formidable bonhomme. Et il a fait des très bons arrangements, dont Si je chante. Mais à cette époque, on passait quand même le disque, mais on ne disait pas qui chantait. Donc, c'était pour démarrer un chanteur, ce n'était pas très facile.
Mais il n'y avait plus grand monde pour animer l'antenne en 68.
Oui. Non, il n'y avait plus personne.
Et donc, après, il y en a eu d'autres.
Ben, on en a fait 10, il y en avait un qui a marché, c'était pas mon... Et j'avais une réputation...
Lequel a marché le mieux ?
Chez Barclay, aucun.
Aucun.
Et j'avais une réputation qui m'est venue aux oreilles, que j'étais pas plus moche qu'un autre, que je chantais pas trop mal, mais que malheureusement, j'avais pas ce qu'il faut pour marcher. Et ça prouve qu'il faut se méfier de ce qu'on dit.
Mais il faut des ingrédients pour ça, et on va y
faut
venir.
La chance.
On va y venir.
Viens donc avec moi là.
Parmi les rencontres importantes, en tout cas significatives de votre parcours à la fin des années 60, il y a un personnage, enfin plusieurs personnages, des chanteuses à vrai dire. Je crois que ça commence avec Mick Michel.
Les femmes m'ont toujours porté chance, évidemment. C'est pour ça que je les aime tant. Mick Michel était dans une émission de vos confrères d'une station qui s'appelle RTL. C'est une émission présentée par un monsieur qui est toujours là, qui s'appelle Philippe Bouvard. Et elle était la vedette, comme on dit à l'époque de l'émission. Elle a dit dans l'émission, qu'est-ce qui chante bien ce garçon ? Je veux le rencontrer, absolument. J'étais déjà, moi, dans une petite loge. J'ai entendu qu'elle... En effet, elle m'a invité, je me souviens même de l'adresse 48, impasse de Passy, dans le 16e arrondissement. C'est des souvenirs comme ça qu'on a. Hein. J'ai oublié beaucoup de choses, mais pas ça. Et donc, je suis allé le voir le dimanche suivant. Et c'était formidable, sympathique. C'est drôle comme la vie ressemble parfois à un scénar de Lelouch, parce que son musicien, son pianiste, celui qui était son chef d'orchestre, c'était un monsieur qui s'appelle Marcel Hendrix, qui a fait tous les premiers disques de François Zardy. Donc c'est le hasard de la vie totale. Je ne savais pas que François Zardy allait avoir une importance aussi dans notre vie. Quand je dis notre, je parle du couple. Et elle m'a engagé, elle m'a permis de faire ma première tournée.
Vous avez fait même des émissions de télévision avec elle.
Ah ben, elle avait l'émission qui s'appelle Samedi et compagnie, Samedi pour vous, oui. Elle m'a fait faire
ce sacré métier.
Oui. Ce sacré métier, oui, je me souviens. Donc,
Mick Michel était vraiment, à ce moment-là, une animatrice reconnue à la télévision.
Oui, elle n'a pas tellement eu des femmes comme ça. Et c'était des émissions plutôt sympas. Et il y avait toujours une vedette, comme on appelle à l'époque, américaine, donc connue, mais moins connue que la vedette. Et puis, il y avait aussi un jeune chanteur auquel on voulait donner la chance. Et ça, c'était donc une de ces émissions où j'étais moi. C'est assez marrant à voir, quoi. C'est sûr. La vedette, c'était Nana Mouskouri, que j'aime bien, avec laquelle j'ai fait ma première tournée après, d'ailleurs. Ouais.
Alors, comment ça s'est passé tout ça ? Parce que donc, ça commence par Mick Michel, et après, de fil en aiguille, ça arrive à Nana Mouskouri.
Mick Michel avait une amie très proche à elle, qui était la femme de Roland Ribet.
C'était Anne Monaco.
Ah, c'était son vrai nom.
Oui,
absolument. Son nom d'artiste.
Son nom d'artiste.
Oui, son nom d'artiste.
Elle était donc chanteuse également.
Elle était donc chanteuse. Moi, je ne l'ai pas connue chanteuse. Elle était la femme de Roland Ribet.
L'impresario.
Et l'impresario Roland Ribet. Nana Mouskouri était donc, entre autres, une des artistes de ce Roland Ribet. Et il m'a donc engagé grâce à Mick Michel. Et donc, ça m'a permis de faire ma première tournée avec un immense plaisir. C'était une tournée aux Pays-Bas, donc ils m'ont engagé peut-être aussi un petit peu comme interprète. Mais j'avais le droit de chanter 5 chansons dans le programme. C'était formidable. Et en vedette américaine, comme on disait à l'époque, de celui qui termine les premières parties avec Nana Mouskouri. Après, j'ai connu Claude Véga, que j'ai adoré aussi, évidemment.
Mick Michel va même adopter une chanson écrite par Dave, inspirée par le folklore yiddish.
Je bois dans ton verre pour lire tes pensées. Je voudrais te plaire parce que tu me plais. Je bois dans ton verre, mais il y a dans tes yeux des grains de poussière. Tu es malheureux. Je bois dans ton verre pour lire tes pensées. Je voudrais te plaire parce que tu me plais. Je bois dans ton verre, tu bois dans le mien. Solitaire et toi, l'étranger, nous faisons la guerre aux amours passés. Je bois dans ton verre et tu bois dans le mien. Ombres et lumière jouent dans notre vin. J'ai cassé ton verre, tu n'as pas bronché et il n'y a rien. Si mon verre est vide, ton cœur l'est aussi. Tu marques une ride au coin de ma vie.
Donc finalement, vous avez enchaîné les tournées avec Mick Michel, avec Nana Mouskouri, tout ça sous le, organisé par Roland Ribet.
Voilà, et avec des disques qui sortaient régulièrement et qui ne marchaient pas. Jusqu'à ce que je suis finalement rentré chez CBS, tout a commencé à marcher sur un plan commercial.
Donc là, on est en 69 hein, pour toutes ces tournées.
Belle année.
Belle année, absolument. Et à cette année-là, d'ailleurs, vous avez aussi essayé de représenter la Hollande au Grand Prix de l'Eurovision.
Ça s'est bien raté. Hein. J'étais donc en tournée. Je suis quitté la tournée pour aller aux Pays-Bas. On m'avait demandé de participer à l'équipe de Néerlandais pour une espèce de concours de chant. Ce n'était pas l'Eurovision, hein, mais... Et on était au Knokke-le-Zoet en Belgique, je me souviens. Et j'ai appris aussi à cette époque-là qu'un chanteur à voix, comme j'ai les prétentions de l'être, il n'a pas intérêt de se promener au soleil, au bord de la mer, en buvant des bières froides. Tout ça, c'est très mauvais pour les cordes vocales. Je le sais maintenant. Donc quand finalement c'était mon tour, moi qui étais là surtout pour la voix, il n'y en avait pas. C'était rauque, très très rauque.
Donc il y a eu deux concours. Il y a eu une tentative à l'Eurovision, vous n'avez pas été sélectionné. Et puis il y a eu la Coupe d'Europe du Tour de Chant au festival de Knokke-le-Zoet.
Exactement. J'ai participé aux présélections de l'Eurovision l'année où d'ailleurs la personne qui a gagné, qui s'appelle Lenny Cour, et qui chante une chanson qui s'appelle Le Troubadour, elle a fait une tournée après en France avec Brassens. Et c'est l'année, donc en 69, où il y a eu la seule fois qu'il y a eu quatre ex-aequo pour l'Eurovision. Il y avait l'Italie, je crois, l'Angleterre, et une quatrième pays. La Hollande et une quatrième pays, j'ai oublié. C'est déjà pas mal de m'en souvenir de trois personnes. Parce que ça, après, ils ont changé les règlements de l'Eurovision.
Oui, pour que ce soit plus possible.
Pour que ça soit plus possible.
Hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De troubadour. Voor ridders in de hoge zaal. Zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal. De troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijke vuur de troubadour en in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, de
alors Dave, ce que j'ai découvert, c'est que dès 1968, Barclay vous a fait enregistrer non seulement en français, ça on en a parlé, mais également certaines adaptations en langue étrangère de votre répertoire de cette époque. C'est par exemple là, en 68, il est sorti en italien « L'amour est roi et moi et mes chansons ». En anglais « Love is king » et « If I sing a song ».
Oui, parce que Barclay aux Pays-Bas existait aussi. Et il y avait aussi un monsieur qui travaille pour Barclay en Italie, oui, ça explique ça.
Alors, Dave, donc, expliquez-moi comment ça s'est fait, l'idée de faire des versions dans différentes langues, déjà à cette époque de vos débuts chez Barclay. Parce que ces disques, ils sont assez rares. Hein.
Oui, mais ça vient d'un directeur artistique dont j'ai oublié le nom, qui était, il y en avait un qui était donc chez Sugar Music, qui représentait à l'époque Barclay en Italie. Et ce sont sûrement eux, parce qu'au début, quand on fait un premier disque, il y a toute la maison de disques, et je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, qui y croit, quoi. Et même encore, même si ça ne marche pas les premiers coups, on essaye quand même le deuxième coup, etc. Donc, et il pensait que je pouvais vendre à l'étranger, mais ça n'a pas été prouvé, mais ça venait vraiment pas de moi, hein, j'avais aucune idée.
Et les versions pour l'Angleterre?
Mais ça, c'était pareil, c'était une représentante de Barclay en Angleterre qui croyait que je pouvais. Et je pouvais d'ailleurs, mais j'ai sûrement un accent. J'ai même un accent en français, malgré que je suis là depuis plus de 50 ans, bientôt 60, et que j'ai même un accent hollandais parce qu'on me demande d'où je viens. Je ne parle plus aucune langue bien.
Et tous ces enregistrements étaient faits à Paris, dans toutes les langues?
On en a fait en Angleterre aussi. Et j'en ai fait plus tard aussi en Allemagne, en allemand, mais ça c'est encore pire, puis ça n'a pas dû plaire à mon père. Ça n'a jamais... C'est-à-dire que j'ai marché comme chanteur francophone dans des pays francophones, mais pas ailleurs. Aux Pays-Bas quand même, aux Pays-Bas j'ai quand même marché. Ouais.
Oui, parce que là, justement, il y a aussi une série de 45 tours néerlandais en 1969, avec des chansons qui d'ailleurs n'existent pas forcément en français, enfin, ça vous allez me le confirmer. Mon seul problème, Naviguant sur les mers... qui peut dire à Nathalie quand on a quelque chose. Là, je donne les traductions en français, mais
oui,
là, ces chansons-là, on les connaît pas en français.
Quand on a quelque chose, oui, c'est une chanson d'ailleurs d'un chanteur qui s'appelle Claude Dubois, qui est en France surtout connu pour une chanson qui s'appelle The Blues de Businessman.
Oui, dans Starmania, mais ça c'est plus
Starmania,
tard.
Starmania, ça vient plus tard. Et Claude Dubois, qui est extrêmement sympathique, que j'ai pas vu depuis longtemps. Mais disons que c'était sûrement une idée commerciale, mais c'est rare. Vous savez, je suis toujours Johnny Hallyday dans ce cas-là, parce qu'il est immense dans le monde francophone, mais pas ailleurs.
Als ik zing, is dat voor jou. Als je nou maar luisteren wou, dan begreep je meteen dat ik van je hou. Meer zit er nooit in mijn lied, maar het lijkt of je het niet ziet. Al wat je zegt, al wat je doet, dat is goed. En nooit ben ik meer alleen, jij bent altijd om me heen. Ook al ben je er niet echt, ik hou van jou. Evacuees in wat men zegt, de helft of minder waar en echt. Altijd speelt eigen belang, maar bij jou ben ik niet bang. Heel vaak is in wat men zegt, de helft of minder waar en echt. Altijd speelt eigen belang, maar bij jou ben ik niet bang. Als ik zing, is dat voor jou. Als je nou maar luisteren wou, dan begreep je meteen dat ik van je hou. Als ik zing, is dat voor jou. Als je nou maar luisteren wou.
C'était la version hollandaise de Si je chante, dont Dave a signé lui-même l'adaptation en 1969. Tous ces premiers enregistrements Barclay en français ont été regroupés dans un beau coffret 4 CD chez Marianne Mélodie, célébrant ses noces d'or. Nous retrouverons Dave la semaine prochaine pour la suite de son parcours et nous serons également en compagnie de son parolier Patrick Loiseau. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Dorothée Gol à la préparation, Claire Levasseur à la technique, Baptiste Dupin à la réalisation. Merci à Mathieu Moulin ainsi qu'à Romain Couturier de la discothèque de Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.